La radio libre.
Et bonsoir à tous et bienvenue en direct du collectif Girol à Saint-Pierre comme tous les seconds mardis. Mais non, on n'est pas le second mardi du mois. On est le troisième, ce fois-ci, 14 juillet oblige. On vous propose en direct de parler pendant une petite heure de tout ce qui est culture libre avec un brouhaha intense derrière. Alors, ils sont pas beaucoup, hein, mais ils font beaucoup de bruit. J'ai coupé le micro, normalement, on les entendra plus. Aujourd'hui, je suis avec Mathis. Bonsoir Mathis.
Bonsoir Yorick, bonsoir à tous.
Wikipédien de son état, fan des boxeurs de Bordeaux comme d'habitude. J'ai promis d'ailleurs à mon fils que j'allais l'amener aller voir les matchs de gala qui à la fin du mois d'août. Voilà, on va aller voir des matchs de hockey. On t'y croisera peut-être.
Eh ben écoute, tu me dis, je te dirai où te placer pour être à côté de moi.
Ok, et on est avec Mathias.
Bonsoir. Bonsoir.
Membre de Brownie Cube, qui revient tout juste de Toulouse où il s'est cassé les pieds sur l'asphalte toulousain et a visité la place du Capitole et heureux propriétaire d'un Yolaphone, pardon.
Exactement.
Avec le système libre, Selfish OS. On va en discuter tout à l'heure.
Mathias.
Voilà, Mathias. Et moi, toujours Yorick, gamer linuxien de mon état et bidouilleur à la petite semaine. On va donc discuter de plein de choses. On va parler forcément de la loi renseignement. Ça y est, le Conseil constitutionnel a été saisi, même par notre super président de la République qui ne sert pas à grand chose, à part s'auto-féliciter d'avoir trouvé un accord merdique pour la Grèce. On va parler du coup Yolaphone et de Selfish OS que Mathias a testé depuis ces deux dernières semaines, et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à voir. On va parler de jeux vidéo aussi avec une annonce qui a été faite par Aspire Media, notre porteur de jeux vidéo Linux et macOS préféré, à qui on doit notamment le portage, l'excellent portage de Borderlands 2. En attendant, on va se faire une petite pause musicale, histoire qu'on mette tout le monde d'accord, et ensuite on reviendra pour parler du Yolaphone. On va commencer par les bonnes choses. Qu'est-ce qu'on va proposer? Je vous propose donc ce soir pour de commencer avec notre chanteuse française préférée libre, Lo, avec Mère Nature sur Radio Girol.
Ta mère
listen to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Et nous voilà de retour. Alors, vous connaissez sûrement les téléphones. Vous en utilisez sûrement un, comme la majeure partie de la population française. Vous connaissez Apple et son truc à la mode qui vous enferme dans une prison dorée. Vous connaissez Android qui vous suit à la trace. Encore pire qu'une boîte noire sortie de notre état policier. Et vous, maintenant, il existe des alternatives. Alors, on a entendu parler de Firefox OS, on a entendu aussi parler des Ubuntu Phone. D'ailleurs, on en parle ici sur cette antenne régulièrement. Et voilà un nouveau venu, enfin pas si nouveau que ça, c'est l'entreprise Yola avec son Yola Phone. Et c'est Mathias qui a été le testeur pour Girol. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Quelle est l'histoire de ce téléphone ? D'où il vient ?
Ok. Donc il faut savoir que Nokia est passé sous la tutelle de Microsoft et que maintenant ils font Windows Phone. Ce qui n'a pas forcément plu à des ingénieurs de chez Nokia qui, je le rappelle, ont entre autres créé la superbe librairie Qt, très connue dans le monde de Linux, qui est à la base notamment de l'environnement de bureau KDE, donc c'est quand même assez important. Aujourd'hui, ils le développent plus, mais c'est quand même eux qui l'ont fait à la base. Et ils avaient aussi un autre projet qui était un projet de système d'exploitation pour téléphone libre qui s'appelait Mer. Et au final, quand Microsoft a pris sous son aile Nokia, les ingénieurs de chez Nokia qui n'étaient pas d'accord avec ce changement et qui voulaient continuer à faire du libre et qui ne voulaient pas bosser sous les environnements de Microsoft, et bien ils ont pris ce code, ils ont pris cet OS libre, et ils sont partis faire leur start-up pour créer leur propre système. Donc un Kickstarter après, et pas mal de boulot après, ils arrivent avec un téléphone qui est donc presque entièrement libre. C'est toujours basé sur Mer, qui lui est libre. Il y a pas mal d'applis qu'ils ont créées pour toutes les applis de base du téléphone. Il y en a une bonne partie qui sont libres. C'est surtout leur valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont développé pour faire une interface qui leur est vraiment spécifique. Ça, c'est le point, c'est un des deux points forts du téléphone, c'est qu'ils ont voulu se démarquer. Et du coup, ils ont vraiment recréé tout leur écosystème en termes d'interface, en termes de navigation dans le téléphone. De menus, etc.
Alors, quand on regarde ce téléphone, alors je vous invite, auditeurs, à aller voir sur Internet, à taper Yola, J-O-2-L-A, dans votre moteur de recherche préféré. On trouve un téléphone qui a un design assez particulier. On dirait deux tranches, une noire, une blanche, mises l'une sur l'autre. Il donne une vraie impression. Déjà, il est très beau. Il donne une vraie impression de solidité quand on l'a en main. L'écran est vraiment, vraiment beau. Est-ce que toi, tu as eu quel est ton ressenti par rapport au matériel même, à la prise en main, je dirais, physique du téléphone, sans parler pour l'instant du système?
Alors, au niveau du téléphone, il faut savoir que c'est un téléphone de milieu de gamme. Il est à 250€, donc c'est pas super cher. Et les composants qu'il y a dedans sont pas non plus exceptionnels. Il est pas très très puissant, mais ça suffit largement pour ce qu'il a besoin de faire tourner. Niveau ressenti, j'ai pas spécialement trouvé que c'était bas de gamme, enfin mauvaise qualité l'assemblage. Juste les boutons sur les côtés qui bougent un petit peu. Je sais pas si c'est mon modèle en particulier. Faudra que je compare avec un ami qui a le sien quand je le reverrai à la rentrée. Mais à ce niveau-là, ça me paraissait plutôt solide, plutôt bien fait. Et donc tu parlais de cette histoire de téléphone en deux parties. C'est relativement important. Ils ont pas mal basé leur com là-dessus. C'est une des fonctionnalités qu'ils ont imaginé en fait. La coque, donc qui cache la batterie derrière, est changeable et elle peut discuter avec le téléphone. Elle a des fonctionnalités en fait. Toutes celles de base que Yola vend pour le moment ont pour seule fonctionnalité d'intégrer un thème avec elle. Donc voilà, là, par défaut, on a la coque blanche. Donc quand on la met au téléphone et qu'on l'allume, le téléphone détecte cette coque et va nous dire bon, bah, y a un thème qui est disponible, qui va avec, est-ce que tu veux l'installer ?
D'accord.
Mais il y a moyen de faire plus, et il y a déjà des fans du téléphone qui ont commencé à bidouiller des coques un peu spéciales. Donc on en a une qui embarque un clavier physique, carrément, comme les téléphones il y a quelques années où on pouvait glisser on pouvait le mettre en paysage et glisser un clavier dessous. Donc ça, il y en a qui l'ont créé. Il y a d'autres mecs qui sont amusés à créer, comme sur les Nokia, les rechargements à induction de la batterie. Il y en a d'autres qui sont amusés juste à mettre quelques LED et les faire clignoter en fonction des différents événements. T'as reçu un SMS, ce genre de trucs.
D'accord, donc c'est déjà un téléphone qui a été bidouillé déjà au moins de l'aspect extérieur. Il y a déjà des périphériques qui ont été créés pour ce téléphone par la communauté.
Exactement, et c'est aussi tout le délire de Yola, c'est qu'ils savent qu'ils viennent d'une communauté de bidouilleurs. Ça vient de Linux, du libre et tout, donc ils savent, ils se la jouent vraiment pas grosse boîte. On est là pour vendre notre produit tel quel. On sait qu'il y en a une communauté avec nous et on sait qu'on vit actuellement grâce à cette communauté. Le téléphone en lui-même, il est vendu, même si le système qui tourne dessus est encore en bêta. C'est assumé, c'est annoncé, et ils sont pas mal à l'écoute de la communauté. Donc à tel point que j'ai vu dans les mises à jour qu'ils avaient fait qu'ils avaient supporté le fait qu'il y ait un clavier physique. C'est-à-dire que j'ai vu dans les logs qu'ils disaient on n'affiche plus le clavier virtuel quand il y a un clavier physique. Donc ça montre quand même qu'ils sont vachement à l'écoute, qu'ils intègrent pas mal ce que les gens font et qu'ils laissent les gens bidouiller. Et j'ai eu une petite mésaventure la première fois que j'ai reçu le téléphone, ce qui montre quand même que c'est encore en bêta. Le téléphone, je l'allume, j'étais au travail, donc je le connecte au Wi-Fi, je fais la première mise à jour. Après le téléchargement, pendant l'installation, la moitié à peu près, le téléphone s'éteint inexplicablement et il se rallume jamais. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu sur le net, voir qu'est-ce qu'il y avait, quelle solution il y avait qui existait. Au final, j'ai dû le renvoyer chez Yola, qui une semaine après, donc là je tiens à préciser que c'est une qualité de suivi, de réparation, enfin même pas une semaine après, j'avais mon téléphone qui marchait, mis à jour et tout ça, donc ça c'est super.
D'ailleurs, est-ce qu'ils t'ont dit ce qui t'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le téléphone ou ils ont
Alors non, ils ont pas changé le téléphone. En fait, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais je suppose, parce que ça me semble assez évident ce qui s'est passé, c'est qu'il y a dû avoir un fail pendant la mise à jour. Et du coup, ça a bloqué le téléphone, qui faisait qu'une fois, pendant qu'il démarrait, en fait, il devait avoir une erreur quelconque qui faisait qu'il pouvait plus finir de démarrer. Et je pense qu'ils ont juste installé la dernière version et que ça a réglé le problème de soi, quoi.
Alors tout à l'heure, tu expliquais un peu l'historique de ce téléphone, l'historique des gens qu'il y a derrière, notamment des anciens de Nokia. Il faut pas oublier quand même que Nokia avait aussi développé un système sur les Nokia N900 qui s'appelait Memo. Je sais plus si c'est Memo ou Mego. Enfin, je crois que c'est Memo, qui était déjà un système très prisé des libristes. Il me semble que c'était basé un peu sur Debian. On retrouvait un apt-get à l'intérieur du téléphone et on pouvait le bidouiller. Et ça va justement avec la prochaine question. Qu'est-ce que tu penses de Sailfish OS?
Alors, pour rebondir en termes de bidouillage, c'est là que je voulais en venir avec l'anecdote de tout à l'heure. C'est que les gens de chez Yola et dans tous les ressources que j'ai pu trouver sur Internet vont pousser les gens à aller lancer le téléphone en mode recovery, à lancer un SSH, à se connecter dessus du coup et à lancer quelques commandes pour aller essayer de bidouiller eux-mêmes leur réparation si jamais c'est possible, ou aller faire des backups de leurs données, ce genre de truc. Donc à ce niveau-là, c'est assez ouvert dans le sens où il y a vraiment pas grand chose à faire, il y a vraiment pas grand chose à activer dans le téléphone pour se retrouver en SSH sur le téléphone en route. Donc à ce niveau-là, bien sûr, ils annoncent que si tu fais des conneries dessus et que tu pètes ton téléphone, c'est pas dans la garantie, c'est normal. Mais c'est pas du genre, si tu actives le mode route, t'as plus de garantie directe. C'est vraiment, si tu fais attention et qu'il n'y a pas de raison que tu fasses des bêtises, il n'y a pas de raison qu'on fasse sauter la garantie. Donc ça, c'est cool. J'ai déjà pu m'amuser à faire quelques trucs sympas en route. Donc à ce niveau-là, le téléphone est assez customisable. Il y a déjà un site qui s'appelle OpenRepo qui contient des paquets non officiels, mais qu'on peut installer. Et dessus, on peut déjà retrouver un gestionnaire de patch et toute une librairie de patch qui vont avec pour commencer à bidouiller, à tweaker le téléphone. Des petits trucs qui vont changer l'interface ou des petites fonctionnalités en plus. Des trucs assez sympas et c'est facilement installable. C'est assez ouvert. Ouais.
Voilà, un peu. Alors, je sais pas si tu connais, peut-être un peu à la manière du système WebOS de Palm avant qu'il soit racheté par HP, où effectivement tu avais un dépôt comme ça de logiciels, tu pouvais patcher pour que tu aies moins de latence quand tu appuies, que tu aies le blacklight, le rétroéclairage de l'écran qui dure un peu plus longtemps, que tu aies voilà, que tu aies plus de cartes. C'était un système web où tu pouvais avoir des cartes. Donc c'était un peu dans cet esprit-là où tu peux carrément customiser ce genre de petites choses avec ton système de patch.
Après, enfin, il suffit d'écrire les patchs et de les appliquer. C'est pas une interface qui te permet directement de modifier des choses. C'est vraiment juste un gestionnaire de paquets. Et il se trouve que là, les paquets en question, c'est des patchs.
D'accord.
Après, il y a aussi plein d'autres choses. Hein. C'est juste un répertoire. Par exemple, j'ai trouvé Vim dans les paquets installables. Voilà. Il y a un terminal de base sur le téléphone qui est assez sympa.
De base, il y a déjà un émulateur terminal de base.
De base, ouais, exactement. D'accord.
Donc, on va dire que ça, quand même, pour l'instant, c'est un système qui te paraît être adapté au power user.
Oui. D'ailleurs, il y a pas mal de petits éléments techniques assez intéressants à savoir pour les power users, justement. Ça peut peut-être intéresser les gens, mais c'est ça tourne sous du C++ en Qt. Sur du Linux forcément. Le gestionnaire de paquets dessus, si je dis pas de bêtises, c'est Yum. Et même s'ils ont un peu leur surcouche, ils ont un peu leur bidouille. Et j'ai déjà pu commencer à faire des trucs un peu fun, du genre le serveur de son qu'il y a dessus, c'est Pulse Audio, comme on retrouve sur la plupart des Linux. Et un truc qu'on peut faire sur Pulse Audio, comme c'est un serveur de son, c'est envoyer le son sur le réseau. Donc j'ai déjà pu m'amuser à streamer le son de mon PC vers le téléphone et vice-versa.
Ouais, c'est-à-dire que par exemple, pour les auditeurs les moins aguerris techniquement, ça veut dire que tu regardes une vidéo sur ton téléphone et le son de la vidéo sort sur les enceintes de ton ordinateur.
Ou vice-versa. C'était l'inverse que j'essayais de faire. L'idée c'était de comme j'avais pas les écouteurs assez longs entre mon PC et l'endroit où je voulais m'installer, je me suis dit je vais brancher les écouteurs sur le téléphone et je vais faire passer le son par le Wi-Fi entre le PC et le téléphone.
Et ça marche.
Et ça marche.
Alors, on a parlé effectivement de ce qui nous intéresse le plus à Girol, savoir la bidouille. Une toute petite dernière question. Maintenant, pour l'utilisateur de base, si tu essayais de te mettre dans la peau d'un utilisateur de base qui veut un téléphone qui fonctionne avec des applications sympas, qui soit utilisable tous les jours, qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que qu'on soit un utilisateur confirmé ou pas, l'interface va dérouter un petit peu au début parce qu'ils ont vraiment décidé de partir sur un truc qui leur est propre. L'utilisation des boutons par exemple est vraiment réduite au strict minimum. Il y a presque moyen de s'en passer totalement. Il y a juste le baisser ou monter le volume même si vous rajoutez une gesture plus tard qui est pas faisable pour l'instant juste en touchant l'écran et éteindre et allumer le téléphone. À part ça, on peut vraiment tout faire au geste. Et du coup, c'est assez déroutant parce que il y a une manière de penser à prendre où de revenir en arrière, c'est un geste vers la gauche, c'est confirmer ou annuler, c'est pareil, c'est on a un panneau qui s'ouvre et soit on revient en arrière en allant vers la gauche ou en allant vers la droite, on confirme. Ça c'est pour se déplacer dans une appli. Et pour tout ce qui est quitter une appli, ouvrir les événements, ce genre de choses, c'est un glisser, mais à partir du bord de l'écran, ce qui permet de différencier les deux gestes. Ce qui peut être un peu déroutant au début, on peut essayer d'y aller un peu de manière bourrin sans trop regarder ce qu'on fait, du coup on ferme l'application alors qu'on voulait juste se déplacer dedans. Ça se prend très rapidement, c'est assez agréable et j'ai un ami qui l'a utilisé un petit peu plus longtemps qui me disait que revenir à Android c'est vachement plus long que passer à Selfish.
D'accord.
Après au niveau des applications, y a le support des applications Android, donc même si c'est pas encore je pense super super stable, et que ça tournera jamais aussi bien que sur un vrai Android, ne serait-ce parce que le matériel n'est pas aussi puissant. Et les applis de base font suffisamment bien leur boulot, je pense. Une fois passé le petit cap de on comprend comment l'interface est foutue, je pense qu'on s'y retrouve sans trop de problèmes, et un truc qui va pouvoir, je pense, intéresser les fans de réseaux sociaux et tout, de tout ce qui est compte connecté. Le téléphone a cette idée de on configure tous nos comptes dans le réglage globaux de l'appli et ils se retrouvent un petit peu partout. Donc, par exemple, dans le flux d'événements, on va voir nos tweets ou nos posts Facebook qui vont arriver. Depuis l'application Galerie, donc on peut voir nos photos et on peut directement les balancer sur Facebook. Il suffit qu'on ait configuré notre compte et ça devient disponible dans tout le système après, pour peu que les applications en question supportent.
Très bien. Effectivement, quand tu en parles, moi je trouve, pour ceux qui ont connu, que ça ressemble énormément au système WebOS tel qu'il avait été pensé par Palm voilà, au milieu des années 2000-2005. Bon, merci beaucoup. On va s'écouter une petite musique. Je vous propose Marie-Claire de Tipa Tapon. Et ensuite, on reviendra, on va parler du gros morceau aujourd'hui, le projet de loi renseignement. À tout à l'heure. Et nous revoilà en direct de Bordeaux sur Radio Girolle avec cette fois-ci Mathis, mais toujours Mathias aussi qui est là, qui bidouille son téléphone. On va parler de la fameuse loi renseignement. Vous savez, la loi que nous, Giroliens, on porte dans notre cœur, telle une armée de libristes convaincus que nous espionner est la solution. Alors, ça bouge donc du côté de la loi renseignement.
En tout cas, ça va bouger puisque la décision du Conseil constitutionnel est attendue dans 2 jours, jeudi 23. Le Conseil constitutionnel qui a reçu beaucoup, beaucoup de documents, des mémoires amicus curiae, qui ont été déposés.
Alors juste, en
7 ou 8, je crois.
On va expliquer ce que c'est qu'un mémoire amicus curiae.
Alors c'est des acteurs de la société civile. Alors il y a eu je vais pas dire de bêtises. Il y a
la Quadrature du Net.
Il y a plusieurs associations qui ont déposé des mémoires au Conseil constitutionnel pour expliquer leur point de vue sur la loi et aider le Conseil constitutionnel dans sa réflexion. C'est comme ça que ça. C'est le principe, c'est d'aider dans la réflexion, de leur apporter les éléments techniques que eux n'ont pas forcément, parce que c'est des juristes au Conseil constitutionnel. Faut pas croire que c'est juste les 9 sages. Il y a toute une armée de juristes derrière, qui sont là pour étudier les lois présentées. Mais ils n'ont pas forcément tous les éléments techniques pour répondre sur une loi très technique comme celle qu'on a là. Donc oui, leur apporter des éléments techniques, des analyses aussi de citoyens pour leur expliquer la vision qu'on peut avoir nous de cette loi.
D'accord. Alors, quand est-ce que tout ça a été déposé au Conseil constitutionnel ? Est-ce que tu le sais ?
Alors, ça a été déposé au début juillet pour qu'ils aient le temps ensuite d'étudier avant de rendre leur décision dans 2 jours.
Voilà, la décision est attendue, effectivement, le 23 juillet. On espère tous, effectivement, que le Conseil constitutionnel va largement censurer cette loi que nous aimons tant. Hein. On aime se faire du mal, on aime censurer les lois que l'on déteste. Et alors, ce qui est assez nouveau, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'opinion publique n'est pas forcément d'accord avec cette loi.
Et même pas du tout d'accord, puisque le barreau de Paris a commandé un sondage à l'Institut CSA. 82% des Français seraient contre les moyens de surveillance prévus par la loi. 14%, sachant que 14% seulement des Français maîtrisent le contenu de la loi. Donc c'est extrêmement peu.
Donc elle a déjà, sans que les gens aient forcément la connaissance requise pour maîtriser tout l'ensemble des techniques prônées par la loi, ils en ont peur. C'est-à-dire qu'il y a une peur générale de cette loi, effectivement, qui est, en toute connaissance de cause, qui est liberticide.
Oui, mais il y a l'expérience aussi de la NSA. Hein, les révélations de Snowden ont quand même pas mal ébranlé l'opinion, plus en France d'ailleurs qu'aux États-Unis, plus en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'ils en parlent très peu là-bas.
Alors, est-ce que le sondage dit qu'est-ce que ces personnes-là craignent avant tout ? Qu'est-ce qui leur fait peur dans cette loi ?
Alors, il y a beaucoup de personnes qui craindraient que les informations récoltées soient utilisées à des fins politiques. Donc là, on est surtout sur les sympathisants de droite, donc de l'opposition, qui craignent que les informations récoltées soient utilisées pour les faire taire, en quelque sorte.
Voilà.
Alors, on ne sait pas si la crainte est fondée dans l'immédiat, mais ça peut être une arme pour peut-être de futurs gouvernements moins démocratiques, on va dire. C'est ce qui ressort de manière générale.
Et aussi. Oui, parce que n'oublions pas que, par exemple, les militants qui se positionnent sur des zones à défendre peuvent être facilement écoutés. Ça peut être effectivement une arme de pression pour dire non, je ne vais pas aller afficher mes idées sur une zone à défendre si je sais que le gouvernement peut effectivement m'espionner, se servir de ça comme une arme dans le futur.
Oui, et de manière générale, tous les comportements militants, que ce soit dans la rue ou sur Internet, il y a quand même la moitié des Français qui se dit prêt à modifier son comportement au téléphone, sur Internet, et même ses déplacements pour échapper à la surveillance.
On revient un peu à ce que disait du coup Tristan Nitto sur son blog, c'est qu'une société qui se sent surveillée n'agit pas de la même façon, du coup. Les gens n'agissent plus de la même façon, et on le voit dans ce que tu dis, un Français sur deux prêt à modifier son comportement dès maintenant. Donc preuve en est que effectivement, Tristan Nitto avait raison et que la société panoptique que nous prépare notre cher gouvernement, du coup, n'est pas adaptée. On n'est plus dans un état démocratique si cette loi est utilisée telle qu'elle est écrite à l'heure actuelle.
Mais le problème, c'est qu'elle est très vague. Amnesty International s'est positionné, mais aujourd'hui même, là, je lisais juste il y a quelques minutes. Effectivement contre la loi parce qu'elle est trop vague et que même si c'est pas forcément utilisé dans l'immédiat, elle ouvre la voie à des pratiques qui peuvent être scandaleuses et qui pour certaines auront très probablement lieu rapidement.
Des fois, l'enfer est pavé de bonne volonté. Rappelez-vous ce député ou sénateur qui demandait pourquoi pas ne censurer les sites ou rendre invisibles les sites qui insultent qui sont diffamatoires envers les élus de la République, si on peut le faire pour des pédophiles.
Oui, mais le problème de la diffamation, c'est que la diffamation, c'est pénal. Donc la diffamation, il faut que ce soit reconnu comme diffamatoire par un tribunal.
Mais justement,
la présomption d'innocence.
Voilà, sauf que du coup, la censure telle qu'elle est faite pour les sites pédopornographiques, ils ne passent pas du tout par un juge. Donc pourquoi ne pas utiliser le même système pour des sites qui sont insultants envers des élus de la République? Et là, à nous de se demander si effectivement, on n'est pas dans des envies de censure politique. Donc ça veut dire détourner un système de loi pour faire quelque chose antidémocratique. Et c'est ce que pourrait permettre, entre autres, cette loi extrêmement vague.
Alors il faut quand même distinguer un truc. Si je traite le président de la République de con, c'est une insulte, mais c'est pas de la diffamation, c'est une injure. Mais après, oui, effectivement, bon, il y a des extrêmes. On sait bien que quand on va dire des choses complètement fausses et qu'on sait fausse, c'est de la diffamation. Mais la diffamation est quand même beaucoup plus tangente dans certains moments que peut l'être un contenu pédopornographique. Un contenu pédopornographique, c'est pédopornographique ou ça l'est pas. C'est très binaire. Alors que la diffamation, c'est beaucoup plus difficile à juger.
Tout à fait. Si je dis que le président de la République n'a pas servi à grand chose pendant la crise grecque, contrairement à ce qu'il affirme, ce n'est pas vraiment ce n'est pas une injure, mais ça pourrait être interprété comme.
Oui, il y a peu de chance, parce que ça, c'est ton droit d'opinion, mais dit différemment, ça peut
porter à confusion.
Ça peut porter à confusion, c'est assez compliqué, je ne suis pas juriste, je m'y intéresse un peu, mais je ne suis pas juriste, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais la diffamation, c'est très compliqué à cerner. Soit c'est très clair, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la loi oblige les
intermédiaires techniques,
les hébergeurs, oui, à supprimer ou masquer une diffamation claire dès qu'elle est identifiée. Soit c'est pas clair, à ce moment-là, c'est effectivement au tribunal de juger.
Enfin, toujours est-il que nous, on se positionnera toujours contre cette loi. On lisait pas plus tard que tout à l'heure un article sur Numérama qui disait que les Français étaient aussi inquiets par rapport à la vulnérabilité des systèmes d'information qui stockent les données. Alors, on parle, là, il était dans l'article question notamment des géants du web, des jeux comme Sony qui s'est fait pirater plusieurs fois son PlayStation Network et qui a fait face à d'énormes fuites de données, comme TF1, comme LastPass, assez grave comme LastPass, c'est-à-dire des mots de passe stockés par les utilisateurs qui se retrouvent dans la nature.
Plus récemment, on a eu France 24 aussi.
On a eu France 24, on a eu TF1, on a eu Twitch. Twitch, c'est quand même pas, c'est Amazon derrière. Donc des gros systèmes avec des entreprises qui sont reconnues dans le secteur comme étant, ayant des bonnes pratiques, se font pirater des données. Alors imaginons avec la loi renseignement et les boîtes noires si un jour ça venait à tomber entre de mauvaises mains.
Mais d'un côté, j'ai envie de dire, plus c'est gros, plus il y a de chances que ce soit piraté, parce que plus ça intéresse les pirates. On sait que sur Linux, il y a très peu de virus, simplement parce qu'il y a très peu de monde sur Linux, donc ça n'intéresse pas les pirates. Ça coûte trop cher de développer des virus sous Linux pour le peu de monde qu'il y a.
Voilà, mais ce constat aussi, alors là, il parlait de... publier que les Français... Alors c'est un sondage, il ne donne pas les chiffres sur Numérama, c'est très dommage. À une écrasante majorité, entre parenthèses 90%, les Français se disent préoccupés par cette situation, à savoir l'utilisation des données dans le cloud et la non-maîtrise de, effectivement, où sont stockées et qu'est-ce qui est fait avec ces données. Donc, c'est assez paradoxal, les Français sont inquiets pour leurs données personnelles et de l'autre, l'État veut essayer justement d'en grappiller un maximum.
Oui, mais je le lis, là, je relis l'article sur le sondage dont je parlais. 70% des Français sont opposés à la simple conservation des données personnelles. Bon, c'est un peu paradoxal, l'utilisation qu'ont fait certains sites marchands, Amazon pour ne pas le nommer. Mais c'est vrai que ça montre quand même que même si les Français ne maîtrisent pas forcément la protection de leurs données, malheureusement, on est aussi un peu là pour ça à Girol, ils veulent les protéger.
Alors je lisais aussi, je sais plus, je crois que c'était aussi sur Numérama, où le gouvernement a répondu au Conseil constitutionnel que les avocats, les données concernant les avocats n'avaient pas à être protégées, notamment pour notre cher gouvernement, les clients des avocats, le nombre, la fréquence avec laquelle ils se rencontrent, les dates, les heures, la durée des entretiens entre clients et avocats n'ont pas à être cachés, ne rentrent pas sous le coup de la protection entre avocats et clients. Seul le compte pour notre gouvernement, toujours, hein, seul le contenu de ces conversations doit rester effectivement secret, soumis au secret professionnel. Personnellement, je trouve que là, il y a un hic quand même.
Mais on en revient à ce qu'on nous dit depuis des années, ce que nous a dit aussi la NSA au début, c'est oui, on n'a que les métadonnées, on ne vous espionne pas, mais les métadonnées, en fait, sont presque plus intrusives, même pas presque, sont plus intrusives que le contenu des données elles-mêmes. Si je sais à qui vous avez téléphoné, à quelle heure, pendant quelle durée, qu'on recoupe ça sur un an avec 30 personnes ou 100 personnes, et ben on en saura énormément sur la vie de ces 100 personnes, même sans avoir le contenu.
Voilà, c'est que j'ai cité l'exemple la dernière fois. Si j'appelle relativement souvent mon cancérologue, c'est plus important de savoir ça que est-ce que je lui ai dit effectivement. C'est pas essentiel. On va pouvoir en déduire que j'ai sûrement un cancer. Après, savoir un cancer de quoi, bon, c'est peut-être pas important. Mais c'est ça, c'est que les métadonnées sont bien plus importantes que le gouvernement veut bien nous le faire croire.
Voilà, donc
Et surtout, elles sont beaucoup plus faciles à exploiter par des systèmes informatisés et automatisés.
Oui, parce qu'il n'y a pas de transcription à faire.
Et c'est la NSA qui a maintenant décidé officiellement que ce n'est plus elle qui stockerait les données, mais les fournisseurs d'accès. En fait, comme c'est des métadonnées, ça revient exactement au même, puisque la NSA, que ce soit la NSA ou les fournisseurs d'accès, de toute façon, ils s'échangent des informations sans qu'on le sache. Et ils transmettent les informations. Ah ouais, il a appelé telle personne à telle heure. Que ce soit la NSA ou le fournisseur d'accès qui le stocke, ça n'a strictement aucune différence.
C'est ça. C'est juste savoir où est le pot de miel, s'il est dans le placard du haut ou du bas. Dans tous les cas, il est toujours là. Et on peut toujours en manger. Bon, merci beaucoup, Mathis. On va se faire une petite pause musicale et ensuite, on reviendra sur un projet qui, malheureusement, s'éteint, mais qui restera dans nos cœurs parce qu'il devient open source. On va vous parler de Bibliocratie. Mathis qui va nous en parler, qui nous a rapporté l'événement là aujourd'hui. Restez avec nous sur Radio Girol. En attendant, on va se mettre une petite musique. Et je dis pornophonique, I want to be a machine, pour stocker des données, des métadonnées personnelles, pourquoi pas. www.girol.org. Et nous revoilà en direct du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. On est avec Mathis et Mathias. Et on va vous parler cette fois-ci de, alors, d'un projet de crowdfunding qui n'a malheureusement pas pu survivre, qui s'appelle Bibliocratie. Alors, c'était quoi le principe de Bibliocratie ?
Alors, le principe, c'est du crowdfunding appliqué à l'édition de livres. Donc, on sait aujourd'hui que les éditeurs de livres... J'allais dire un lobby, mais c'est presque ça. Préfère miser sur des auteurs valeurs sûres. On a aujourd'hui 70 000 titres qui sont publiés par an. Et vraiment, les éditeurs n'aiment pas les jeunes auteurs qui on ne sait pas si ça va se vendre. Donc, Bibliocratie proposait justement un système de crowdfunding basé sur cette idée, donc que le lecteur en fait finance son livre. Et avant, donc, le lecteur va payer pour son livre, et quand la collecte est terminée, les livres sont créés et sont envoyés aux acheteurs. Donc ça permettait de financer un jeune auteur pas très connu. Et il y a plusieurs milliers d'auteurs qui ont été financés grâce à ce système.
Voilà, c'était ce passé effectivement des éditeurs qui tordent le nez pour des jeunes auteurs ou des publications qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ne sont pas forcément formatées pour le grand public. Malheureusement...
Et qui au passage, les éditeurs au passage prennent leur part de gâteau.
Voilà, ponctionnent largement les recettes, un peu comme tous les producteurs, voilà, comme les producteurs de musique ou encore de cinéma. Malheureusement, la plateforme n'a pas pu continuer. L'annonce a été faite il y a très peu de temps par le créateur du site. D'ailleurs, je vous invite à aller voir bibliocratie.com. Voilà, où vous avez un excellent testament, un petit peu du créateur de Bibliocratie que je vous conseille de lire. D'ailleurs.
C'est en fait une copie du mail qu'ils ont envoyé hier. Hein. L'annonce a été faite hier à l'ensemble des auteurs et des souscripteurs des souscriptions en cours pour annoncer que voilà, les banquiers, les investisseurs qui s'étaient montrés assez intéressés au début, finalement, ne les suivent pas. Donc, ils n'ont pas les moyens de continuer. Un projet qui pourtant est intéressant et qui pourtant faisait vivre plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'auteurs.
Voilà. Alors par contre, effectivement, avec la mort de leur plateforme, les créateurs ont décidé de ne pas mettre à mort leur socle technique qu'ils ont créé spécialement pour l'occasion. D'ailleurs, je cite leur site bibliocratie.com. Nous publions aujourd'hui en open source l'intégralité du code informatique de notre site qui aura hélas jamais vu le jour. Modifiez-le, distribuez-le, vendez-le, même si vous le souhaitez. Créez un nouvel outil et permettez ainsi que l'écriture soit encore pour chacun la trace et l'exemple de ce que c'est d'être libre. Voilà, et avec en dessous le bouton code source de Bibliocratie sous licence MIT.
C'est même plus qu'open source, parce que c'est une licence libre, hein, la licence MIT. Donc l'ensemble du code, c'est du Django, et ils l'ont publié sur GitHub. Il suffit cliquer sur leur site, voilà, on a l'accès à l'ensemble du code qu'on peut réutiliser.
Voilà, un simple git clone et c'est parti. Donc la démarche est faire. Alors malheureusement, effectivement, c'était un site intéressant. La démarche est somme toute relativement noble. À nous maintenant, la communauté, de pouvoir récupérer tout ça et en faire un. Pourquoi pas recommencer.
Pourquoi pas, espérons que quelqu'un s'y attelle.
Voilà, merci beaucoup Mathis pour cette petite anecdote. On va passer un petit peu à l'actu du jeu. On a 4 petites minutes pour en parler, mais ma foi, c'est largement suffisant. Si vous êtes des joueurs sous Linux, vous espérez sûrement jouer à de plus en plus de titres triple A. Voilà, c'est un peu le cas aujourd'hui avec la sortie de Knight of the Old Republic 2, un jeu dans l'univers Star Wars qui n'est pas tout récent, je l'avoue. Voilà, il est disponible sous Linux depuis aujourd'hui. C'est Aspyr Media, les gens, comme je le disais tout à l'heure, derrière Borderlands 2, qui nous ont concocté ce port. Ils ont aussi, rappelez-vous, on en a parlé sur ces antennes, ils avaient aussi porté l'excellent Fahrenheit de David Cage, entre autres, les papas derrière Quantic Dream d'ailleurs, le papa de Heavy Rain entre autres, ou de The Nomad Soul pour les plus anciens joueurs. Donc voilà, ça y est, c'est porté, c'est disponible depuis aujourd'hui sous Linux. Ça va être intéressant. L'autre chose aussi intéressante avec le jeu sous Linux, c'est qu'il y a pas mal d'annonces. Il y a Batman The Arkham Knight qui devrait sortir sous Linux au mois de novembre. Remarquez, vu la sortie sur PC qui était plutôt catastrophique, et je vois Mathias qui rigole dans son coin, on ne l'attend. Voilà, on n'espère pas avant au moins le mois de novembre, sachant que la version PC a été repoussée, tenez-vous bien, jusqu'au mois de novembre. Parce que les mecs, ils croient qu'on peut faire que des jeux sur PlayStation et porter des jeux PlayStation sur PC, sauf que les joueurs PC sont un peu plus exigeants quand même, les gars. Faut pas l'oublier. Voilà. Surtout, on va aussi avoir droit, normalement, à un jeu que personne attendait. Alien Isolation de Creative Assembly, un excellent jeu édité par Sega, un survival horror dans l'esprit Alien, mais attention, hein, je parle pas d'un Alien de Jean-Pierre Jeunet, là, pas d'Alien 4, on parle vraiment d'Alien, le huitième passager, sorti en 1985 au cinéma, et on y retrouve toute l'esthétique déployée dans le film, et oui, le personnage tient à la main un vieil écran cathodique pour repérer l'Alien, voilà, donc moi qui ai grandi avec la saga Alien, j'attends avec impatience ce portage qui devrait arriver sous Linux, pareil, courant de l'automne, on espère. On pense d'ailleurs que le portage sera mené par Feral Interactive, même si on n'en est pas sûr. Toujours avec Feral, on attend avec impatience un jeu qui devait arriver pour le printemps. C'est Shadow of Mordor, que l'on attend sous Linux. Et pareil, on attend un petit peu, ça devrait arriver. Mais nous, Linuxiens, nous ne sommes pas pressés. On préfère toujours attendre un peu un bon portage que d'avoir un jeu bâclé, fini, tout buggé. Enfin, pas fini, tout buggé, comme Batman Arkham Knight sur PC Windows, en fait.
Ou le portage de The Witcher 2 au début.
Ouais, mais ça s'est largement amélioré.
C'est pour ça que je précise au début.
Voilà, ça s'est largement amélioré. Et puis on a eu BioShock Infinite qui fonctionne pas trop mal aussi. Donc voilà. D'ailleurs, on attend aussi le portage de The Witcher 3. Arrivera-t-il un jour ? Voilà. On aurait pu citer aussi, de toute façon, dans cette même ordre d'idée, l'excellent portage de Dying Light sur PC où la version jouable est arrivée trois mois après la mise à disposition sous Linux. Il était injouable sous Linux le jour de sa sortie, mais après, ils se sont bien rattrapés. Enfin, toujours est-il que pour nous, c'est terminé. Il est 59 tout pile. On a le temps de se dire au revoir et c'est fini, c'est bon. On est à l'heure, c'est rare chez Girol. En tout cas, on va vous souhaiter un beau mois de juin d'août. Le mois de juin, c'est déjà fini. Parce que nous, là, c'est les vacances. Il y aura pas de radio Girol officiel avant le septembre. On va regarder vite fait la date.
On va tomber sur le 13 ou le 14.
Non, le 8 septembre, mardi 8 septembre. Ah, et oui, ça, et le mardi, c'est
il y a le 2, oui, effectivement.
Et oui, donc le mardi 8 septembre, il n'est pas exclu qu'on fasse une petite radio à la sauvage, mais ça, vous aurez la surprise ou éventuellement le podcast disponible sur les sites www.girol.org. En attendant, passez un beau mois bonne fin de mois de juillet, un beau mois d'août pour les Aosiens, et on se dit à la rentrée. Ciao tout le monde.
À la rentrée, ciao.
Salut.
La radio.